Bon, 1 Pierre, chapitre 2. Je veux tourner notre attention du récit historique qu'on vient de lire ensemble pour fixer notre attention sur l'interprétation biblique. Parce que nous sommes intéressés non seulement à ce qui s'est déroulé et à ce qui a été vu des hommes, mais si on peut le dire ainsi, par ce qui s'est produit dans la coulisse, derrière les scènes. Parce qu'il n'est pas suffisant que l'homme simplement écoute ou voit ou entende parler de l'événement de la croix. Parce que l'homme dans son péché est incapable de comprendre ce qui est passé. Pensez à ses disciples, même à l'époque, qui ont vu devant leurs yeux Christ mourir sur la croix. Même les disciples n'ont pas compris ce qui se faisait. Ils avaient besoin d'une explication divine pour qu'ils comprennent ce que Jésus-Christ leur a donné après sa résurrection. Et pour nous aussi, l'événement a besoin d'une interprétation divine et les 21 épîtres servent d'explication de tout ce que nous lisons dans les évangiles. Les évangiles nous présentent la personne et l'œuvre de ce Dieu fait homme qu'on appelle Jésus le Christ, mais les épîtres expliquent le Dieu homme et ce qu'il a fait et pourquoi il est venu. Et donc c'est ainsi à une épître que nous tournerons ce matin, 1 Pierre chapitre 2. Le contexte d'1 Pierre chapitre 2 dans lequel nous nous trouvons ce matin, c'est une exhortation d'endurer patiemment la souffrance injuste. Et c'est très important que vous gardez ça à l'esprit. Le contexte de tout ce qu'on va dire ce matin est très pratique. C'est une exhortation d'endurer patiemment la souffrance injuste. Notez par exemple le chapitre 2, verset 18, vous pouvez le lire rapidement. Ça parle des domestiques ou des serviteurs qui doivent être soumis au maître difficile. Au chapitre 3, tout au début, le verset 1, ça parle aux épouses de la même manière, avec des maris difficiles. Et puis en reculant un peu, chapitre 2, verset 19, et ce qui suit, ça parle du fait de supporter patiemment les afflictions injustes. Donc l'exhortation ici est à cette sainteté de vie que Dieu nous donne, qui nous permet de supporter patiemment les afflictions ou la douleur abusive. Un chrétien brille plus lumineux quand il souffre injustement. Donc, c'est ainsi dans un contexte de difficulté réelle, de la douleur imméritée, peut-être là à l'endroit où quelques-uns parmi nous se trouvent aujourd'hui, que notre regard est tourné vers Christ. Comme il y a une note dans la Bible de Genève qui dit ça, il appelle, c'est-à-dire Pierre appelle les serviteurs de ne plus considérer les dommages qu'ils sont contraints de soutenir, mais plutôt de penser à la grandeur et à la fin de l'avantage reçu de Christ. Donc il dit, chapitre 2, verset 18, regardez-le, 1 Pierre 2, 18, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Le mot veut dire littéralement tordu, un caractère tordu. Est-ce que vous avez un professeur à l'université, ou un chef, un patron, ou quelqu'un dans votre vie qui a un caractère difficile? Eh bien la Bible dit que ça ne doit rien changer par rapport à votre réponse envers eux. Car, verset 19, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Si vous souffrez injustement, alors c'est une grâce. En effet, verset 20, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? On vous met en prison pour avoir commis le meurtre. Et vous dites, regardez tout le monde, je supporte mon affliction patiemment. Eh bien, Pierre dit, quelle gloire y a-t-il de souffrir patiemment si c'est pour avoir commis des fautes? Mais par contre, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés même, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Vous voyez ça, c'est très important. Il nous laisse un exemple, il nous sert d'exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc ici, nous sommes donné l'exemple suprême de la souffrance. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous devons souffrir comme lui, suivant ses traces. Christ nous est donné comme exemple à suivre. Ces mots que vous voyez à la fin du verset 21, afin que vous suiviez ses traces, c'est vraiment un appel de clairon pour suivre son exemple dans la souffrance. Pour marcher dans ses traces, il faut faire comme lui, il faut lui suivre. Mais je veux que vous notiez l'exemple ou l'aspect de l'exemple du maître sur lequel Pierre attire notre attention. C'est pas simplement que lui aussi a souffert, donc on doit souffrir nous-mêmes. C'est la façon qu'il a reçu ses souffrances. Regardez le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. Pourtant, on vient de lire ce qui s'est passé en Matthieu 27. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait même ne rendait point d'injure. Maltraité même jusqu'à la mort ne faisait point de menace. Mais s'en remettait, c'est-à-dire l'idée de continuellement, il s'en remettait à celui qui juge justement. Alors c'est qui écrit ces paroles? C'est Pierre, n'est-ce pas? Et Pierre, quand il fut injurié, il avait renié le Seigneur 3 fois, dans l'espace de quelques heures même. Et bien qu'il eût échoué, dès que confronté même par une jeune servante, Jésus-Christ n'a jamais péché avec sa bouche. Donc il nous dit de suivre ses traces, de le prendre comme exemple. Jésus-Christ est notre exemple. Mais gloire à Dieu, il est beaucoup plus que ça, n'est-ce pas? Et donc ensuite, notre attention est attirée de l'exemple, mais maintenant aux avantages de la mort de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de vérités à recueillir en pensant de l'exemple de Christ, mais Pierre, il veut continuer, il veut nous parler, il ne veut pas s'arrêter là. Il continue, et pourquoi? Parce que si on va souffrir comme Christ, là où vous êtes, cette semaine même, si vous allez souffrir comme Christ a souffert, ben moi et vous, nous avons besoin de beaucoup plus qu'un modèle. Nous avons besoin d'une puissance. Et c'est pourquoi Pierre tourne de l'exemple de Christ dans la souffrance aux avantages qui suivent de sa souffrance, qui dans un sens sert elle-même comme un exemple, parce que la souffrance de Christ n'était pas sans signification. Ce n'était pas inutile. Elle a accompli quelque chose et votre souffrance accomplira aussi quelque chose. Elle n'est pas inutile. Alors, pour Christ, qu'est-ce qu'il a reçu pour ses souffrances? Qu'est-ce qu'il a accompli à travers ses souffrances? Regardez le verset 24. Lui, il a été injurié, maltraité, mais il portait lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur ou le berger et le gardien de vos âmes. Voici la vraie puissance du christianisme. Pas que Christ nous a laissé un exemple, mais qu'il a pris nos péchés. C'est ça qui me permet de souffrir injustement maintenant. C'est lui, verset 24, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et voici une des déclarations les plus belles, les plus concises et laconiques au sujet de la mort de Christ. Pourquoi est-il venu? Voici ce qui s'est vraiment produit à la croix. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Donc, je voudrais que nous considérions aujourd'hui, pour nous préparer pour la Sainte Cène, d'abord le péché qui a été porté, puis le pécheur, puis la substitution, et puis le substitut. Donc, considérez pendant un moment les péchés qui ont été portés. Vous voyez dans le verset 24, ça dit que lui qui a porté lui-même, et puis ça nous dit ce qu'il a porté. Qu'est-ce qu'il a porté? Il a porté des péchés. Alors, quels sont ces péchés qu'il a portés? Qui peut les compter? En expliquant aux enfants ce que c'est un péché, on dit souvent, qu'est-ce que c'est un péché? Eh bien, c'est un péché, c'est n'importe quel manque de conformité à ou transgression de la loi de Dieu. Alors, je vous demande ce matin, est-ce que vous êtes en conformité à la loi de Dieu? Maintenant, dans vos pensées, dans vos actions, est-ce que vous êtes en conformité à la loi de Dieu? Alors, si vous ne l'êtes pas, vous êtes en train de pécher. Le péché, ce sont tous les actes de commission et les actes d'omission. Pour vous donner notre définition, Augustin, dans les Confessions du Saint-Augustin, il l'a mis comme ceci, il a dit, « Le péché, c'est quand nous prenons un désir parfaitement normal, ou un espoir ardent, ou une ambition, d'accord, c'est quelque chose de bon, de parfaitement normal, mais après nous essayons désespérément de l'accomplir, et voilà le péché, sans Dieu, ce n'est pas seulement un péché, mais c'est une déformation perverse de l'image du Créateur en nous, parce que toutes ces bonnes choses et toute notre sécurité sont justement trouvées seulement et complètement en lui, mais nous on essaye de le chercher ailleurs, et c'est ça le péché. Alors, est-ce que nous comprenons combien de péchés remplissent nos vies? Je doute que ce matin, en venant même à l'église, au culte, vos péchés vous ont troublé. Parce qu'on prend l'habitude, n'est-ce pas? Mais j'ai pensé à ça. Chaque fois que nos esprits rejettent la souveraineté de Dieu et essayent de le détrôner, nous péchons. Chaque fois que nos cœurs disent que Dieu n'est pas assez, niant la vérité qu'il est suffisant, nous péchons. Chaque fois que nous remettons en cause la bonté de ses lois, remettant en cause sa justice, nous péchons. Chaque fois que nous abusons sa pitié ou exploitons sa patience, ou dédaignant sa puissance, ou n'appréciant pas son amour, nous péchons. Vous savez, nous cherchons ardemment des fois même les conseils des autres, pourtant tournons-nous tellement à contre-cœur vers la parole de Dieu. Nous cherchons avidement le plaisir dans les citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, comme on a chanté tout à l'heure. Pourtant, nous faisons la dégoûter devant la source d'eau vive. Nous sommes tellement vives et tellement pollués, mais on ne le ressent même pas assez, mes amis. Je vais vous lire un verset en Ésaïe 64, verset 6, qui nous dit « Nous sommes tous des impurs et toute notre justice... » Voilà, il parle pas ici des choses cachées, il parle des choses qu'on veut démontrer au monde. Même ces justices sont tous comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Puis Job, en parlant du péché et de l'homme pécheur, il dit « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n'en peut sortir aucun. Nous sommes tous pécheurs, dit Job. » Et puis il dit plus tard « L'homme boit l'iniquité comme l'eau. » Expliquer la condition humaine, il dit qu'il boit l'iniquité comme l'eau. Et puis plus tard, il demande « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur ? Ça ne peut pas se faire !» Et puis finalement, en chapitre 4, quand il fait face à Dieu, il dit « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche. » Alors si on faisait cela, Vous savez, nous ajoutons à tous nos péchés le péché de l'hypocrisie et le péché de l'indifférence. Nous prenons point garde à la poutre qui est dans notre propre œil. Nous pensons trop fortement à nous-mêmes. Nous déambulons avec un air, comme si on était plus important et plus sage que ceux qui sont autour de nous. Nous tendons toujours à nous appuyer sur notre propre sagesse, comme si nous avions plus de sagesse que tous les autres. Nous nous faisons de nous-mêmes la norme de ce qui est logique, de ce qui est bon, de ce qui est intelligent, de ce qui est juste, de ce qui est approprié. Et bien sûr que c'est bon parce que je l'ai fait et je suis la norme. Nous ne pensons pas assez du péché. On fait un jeu même du péché en se félicitant d'être le premier parmi les sages quand nous sommes premiers parmi les pécheurs. Quelqu'un dit, peut-il être sage de rire à cela qui lasse Dieu? Alors est-ce que vos péchés vous troublent? Vous savez, la gravité d'une offense est déterminée par celui ou celle qui est offensée. Si je donne un coup de pied à mon chat, on va dire que c'est pas gentil. Si je donne un coup de pied à ma mère, alors c'est une chose différente, n'est-ce pas? C'est le même acte. Je fais la même chose, mais l'objet de l'offense a changé. Et si je me trouvais un jour dans l'Élysée et j'attendais que le président passe et je lui donne un grand coup de pied, ça serait un crime national. Pourquoi? Parce que la gravité d'une offense est déterminée par celui ou celle qui est offensé, par sa position, par sa nature. Et donc, tandis que l'extermination brutale d'un enfant à venir est cruelle, une offense contre le Seigneur des Seigneurs est bien, bien plus grave. Tandis que la torture cruelle des animaux est inhumaine, le même traitement envers les humains, c'est beaucoup plus grave, mais Dieu est infiniment plus grand que nous-mêmes. Et ainsi, c'est que Dieu diffère de nous immésurablement en position ainsi qu'en nature. Il est infini, n'est-ce pas? Et donc, ça rend chaque péché contre lui un péché de proportion infinie. C'est pour ça que David a dû dire, c'est contre toi et toi seul, Seigneur, que j'ai péché. C'est pas que les hommes sont pas importants, mais c'est parce que Dieu est tellement plus important. Chaque fois que vous vous fâchez, que vous vous mettez en colère contre ton frère ou ta sœur, ou tes parents, ou ton épouse, ton époux, ton ami, c'est en premier lieu contre Dieu que vous péchez. Est-ce que vous réalisez cela? Voilà les péchés qui ont dû être portés, si lourds, si nombreux, que même Atlas lui-même serait écrasé sous le poids. Mais considérez en deuxième lieu le pécheur, parce que verset 24 nous dit qu'il a porté lui-même nos péchés. Ces péchés appartiennent à quelqu'un. Ils ont le nom de quelqu'un écrit dessus. Souvent, il y a un crime et personne n'est là, personne ne veut l'avouer, même à la maison. Qui a fait ceci? Ah, tout le monde est silencieux, n'est-ce pas? Mais tous ces péchés ont un nom écrit dessus. Ils ont des auteurs. Ils ont des patrons, si vous voulez, des maîtres. Les péchés sont identifiés en tant qu'étant les nôtres. Alors si je prétendais posséder quelque chose en moi-même, vous savez, ça pourrait seulement être mes péchés. Il n'y a rien qui pourrait mieux me définir ou me dépeindre en tant que ce que je suis en moi-même que mes péchés. Il y a un lien personnel et indissoluble entre moi et mes péchés. Nous essayons souvent de nous distancer de nos péchés. On dit souvent, oh, c'était pas moi, c'était pas vraiment moi. Ou j'ai eu une mauvaise journée, c'est tout. où je suis vraiment fatigué, mais il faut comprendre, j'étais vraiment fatigué, je faisais pas attention, c'était pas moi, hein, c'est pas ma nature, hein, je vous assure. Pourtant, la vérité, c'est que c'est ma nature. C'est le vrai moi, qui est normalement dissimulé, qui est normalement caché, mais qui est révélé lors d'une provocation, ou du stress, ou de fatigue. Mais c'est déjà nous, mais ça ressort. On arrive à le cacher souvent, mais il y a des fois que ça sort. Et quand ça sort, c'est le vrai nous. C'est le vrai caractère de Timothée ou de qui que ce soit qui sort. N'est-ce pas, vous faites la même chose que moi, je crois. On n'aime pas admettre que c'est vraiment nos péchés. Nous admettons tous que nous sommes pécheurs, oui, bien sûr, mais nous aimons penser que nous sommes pécheurs par provocation externe plutôt que par contrainte interne. Et même les enfants deviennent des artistes à faire des excuses, hein, n'est-ce pas, les enfants? Ça prend pas longtemps après leur pouvoir même parler pour dire c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est parce que j'ai pas entendu, j'ai rien entendu, j'ai pas compris. Mais je vais vous dire, enfants, que les adultes, ils sont aussi des artistes à faire des excuses. Ils n'ont pas oublié l'art de s'excuser. Bon, ils l'ont raffiné un peu plus. Mais on le fait toujours. Et ce qui est pire, c'est que nous le croyons toujours. On l'accepte nous-mêmes. Je vois un enfant, il fait des excuses, et je vois qu'il croit que c'est la vérité. Il a pris son excuse comme la vérité. Et nous aussi, nous faisons des excuses, et puis nous l'acceptons comme vrai. Nous aimons penser que, quoique nous sommes pécheurs, cependant nous le sommes par accident et pas par défaut. Mais la Bible nous explique que nous sommes des pécheurs par nature en premier lieu. C'est pas dans le texte, mais c'est clair dans la Bible. La Bible indique que nous sommes nés dans le péché. David a écrit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51, verset 5, je crois. En d'autres termes, ce que David veut dire, il n'y a jamais eu un moment dans ma vie où je n'étais pas pécheur. Depuis, même avant la naissance, j'étais pécheur. Vous savez, le péché fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Comment est-ce qu'un ver arrive à pénétrer une pomme? Est-ce que vous avez jamais posé la question? Vous prenez une pomme, elle est si belle, vous avez envie de la manger. Et puis, juste avant de la croquer, vous regardez, il y a un ver qui sort et vous vous dites, comment est-ce qu'il est rentré là-dedans? Est-ce qu'il a creusé depuis l'extérieur et puis il ressort de l'autre côté? Non, la réponse est non. Il est venu de l'intérieur. Les scientifiques ont découvert que le ver vient, en effet, de l'intérieur. Mais vous dites, comment entrait-il là? Eh bien, c'est simple. Un insecte pond un œuf dans la fleur de pomme, et puis quelques temps plus tard, après que la pomme a grandi, l'œuf éclose au cœur de la pomme, et puis le ver prend sa route en mangeant jusqu'à ce qu'il arrive à l'extérieur de la pomme. Il a commencé au milieu, au cœur de la pomme, et il prend sa route vers l'extérieur. Et vous savez, le péché, comme le ver, commence au fond du cœur, et puis il se démontre par des pensées, par des paroles, par des actions, mais ça commence au fond du cœur. Le péché est donc rien que l'expression de notre nature. Admettez-vous cela. Quand vous péchez, ce n'est rien que l'expression de votre nature. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons parce que nous sommes, quoi, pécheurs. Et donc, en raison de cela, le péché règne réellement sur nous, de sorte que nous continuons à faire des choses que nous aimerions arrêter, et nous ne faisons pas les choses que nous aimerions faire, parce que le péché domine sur nous, c'est notre nature. Alors, qui ici n'a pas senti la puissance du péché en train de vous contrôler? C'est pourquoi David crie à Dieu de ne pas laisser le péché, et c'est le mot qu'il utilise, dominer sur moi. Ne laisse pas le péché dominer sur moi. Je sens sa domination, son contrôle, sa puissance. Et le Proverbe 5, verset 22, parle du pécheur comme celui qui est saisi par les liens de son péché. Voilà le pécheur. Il faut comprendre les autres pécheurs autour de vous. Ils sont saisis par les liens de leur péché. Ils ne peuvent pas faire autrement. Le péché dans ce sens n'est non seulement une expression de notre nature, mais de notre détresse. Le bourbier dans lequel nous nous trouvons. Et comme le fait de mendier, que vous voyez quelqu'un qui est en train de mendier, le fait de mendier révèle la situation désespérée du mendiant, c'est pourquoi il le fait. Ainsi, le fait de pécher révèle la situation désespérée du pécheur, il est asservi. C'est pour ça qu'il pêche. Il est esclave. Il est saisi par les liens de son péché. Alors, est-ce que quelqu'un ici, ce matin, est comme cela ? Vous ne pouvez pas vous en sortir. Le péché domine sur vous. Vous faites bien de l'admettre. Comme ça qu'il faut commencer, il faut l'admettre. Nous sommes pécheurs par nature, mais nous le sommes aussi par choix. Le péché révèle non seulement notre nature et notre situation désespérée, il révèle nos désirs, notre volonté. Nous péchons parce que nous voulons. Parce que sinon on aurait cru que, oh, je peux pas m'arrêter, c'est parce que je suis esclave, je veux ne pas pécher, mais je ne peux pas. Et on entend souvent ça comme excuse, n'est-ce pas? Parmi les enfants, parmi les grands, oui, je veux, mais je ne peux pas. Ah non, non, c'est pas que vous ne voulez pas, vous le voulez. Ésaïe 53, verset 6, parle de nous en tant que pécheurs, il dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Vous voyez, chacun suit sa propre voie. Ce n'est pas le fait que nous sommes forcés à suivre la voie de quelqu'un d'autre et on ne veut pas y aller. Non, 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 on suit chacun sa propre voie. Nous suivons volontairement notre propre voie. On agit tous à sa guise. Nous sommes des pécheurs par choix. Et donc, nous avons un intérêt personnel dans ce qui s'est produit sur le bois, il y a bien longtemps, parce que ce qui a été porté à la croix nous appartient. Il a porté nos péchés à la croix. Ça m'appartient. C'était la nôtre par nature, par conquête et par choix. Et vous savez, quand vous pensez de la crucifixion de Jésus-Christ, il ne faut pas être distrait par les éléments circonstanciels de la mort de Christ, les Juifs qui criaient « Hôte, hôte, crucifie-le » ou les Romains qui le raillaient. En fin de compte, vous savez, ce n'était pas les Juifs qui l'ont mis sur la croix. Ce n'était pas les Romains qui l'ont mis sur la croix. En fin de compte, c'était quelque chose de très proche et cher à nos propres natures qui l'ont porté à la croix. Et qui l'a porté à la croix? C'était nos péchés. C'était nos péchés. À nous les péchés. Nous étions les pécheurs. Et quand il s'agit de mon salut, le tout vient de Dieu, vous savez. La seule chose que je peux contribuer à mon salut, c'est le péché dont je dois être délivré. Et c'est une contribution terrible et grande. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Considérez avec moi en troisième lieu la substitution. Et là, on ne va pas penser du substitut, on y viendra tout à l'heure, mais on veut considérer l'acte lui-même. Pendant un moment, tous ces péchés qui étaient les miens par nature et par choix ont été portés ailleurs. Quelqu'un a porté mes péchés. Vous voyez ça en verset 24. A porté, et puis quoi? Nos péchés. Mes péchés ont été portés. Le mot porté là, c'est le mot anéneken qui veut dire porter ailleurs. Porté ailleurs. Quelque chose est porté ailleurs. Le même mot est utilisé pour décrire l'ascension de Jésus-Christ. Luc nous dit que Jésus fut enlevé au ciel. Il fut enlevé au ciel. Imaginez ça dans vos esprits. Enlevé au ciel. Il fut porté ailleurs. Porté au ciel. Et le verset 24 nous dit que nos péchés ont été portés, enlevés, portés ailleurs. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Mes péchés ont été emportés, si vous voulez, sur le bois. Le mot « épi » qui est traduit « sur », je crois que ça serait mieux traduit avec le mot « a » ou « au », porté en son corps au bois. Il a porté au bois. Ce n'est pas que nos péchés, essayez de me suivre ici, ce n'est pas que nos péchés ont été simplement portés pendant qu'il était sur la croix, mais qu'il les avait et il les a portés à la croix. Parce que la vie entière de Christ, la vie terrestre, la vie entière de Christ était une mission à la croix, n'est-ce pas? Sa vie entière, il portait mes péchés. Il les portait jusqu'à la croix. Ésaïe 53, verset 4 nous dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il fait charger. Il a porté nos souffrances, nos douleurs, nos péchés. Quand est-ce qu'il les a portés? Vous savez que Matthieu indique que c'était vrai de Jésus, pas que quand il mourait sur la croix, mais dès le chapitre 8, verset 17, quand il est dans la maison de Pierre et en train de guérir la belle-mère de Pierre, il dit que ce verset est vrai de Christ. Pendant sa vie, il portait nos douleurs, il portait nos souffrances et même nos péchés, et il les portait de jour en jour, plus proche de la croix. Il portait nos peines, il portait toutes nos douleurs durant toute sa vie terrestre, mais il les portait à la croix. Ils ont été portés à cet endroit de crucifixion, cet endroit de colère non mitiguée de Dieu. Il les a portés loin de nous, pour ne plus être vus. Et ce n'est pas que quelqu'un est venu pour partager mon fardeau, ou que quelqu'un a porté mes péchés pendant un certain temps, et puis les a redonnés. Non, 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 ils ont été portés ailleurs. Ils ont été portés, enlevés au bois. Dieu a dépensé sa colère sur eux, sur Christ, quand il était sur le bois, sur la croix, au calvaire. Vous savez, mes péchés, pensez à ceci, mes péchés en tant que chrétien ont déjà été jugés, ils ont déjà été condamnés parce qu'ils étaient sur la croix le jour où Christ est mort. Ils étaient là. Et c'est un message étonnant mais plein d'espoir pour le croyant qui vient à Christ, parce que cette histoire de porter nos péchés ailleurs n'était pas potentielle, hein, mais c'était réel. Tous nos péchés dans leur totalité et dans leur individualité ont été portés ailleurs à l'endroit de l'exécution. Alors qu'avons-nous à craindre si nous sommes en Christ? Il a porté nos péchés. Et c'était plus que la pénalité de mes péchés qui ont été portés ce jour-là, vous savez? Ça c'est la grande doctrine de la substitution, mais mes péchés eux-mêmes ont été portés à cet arbre. Prenons l'écriture sans modification, regardez, lui qui a porté lui-même nos péchés. Donc ce n'est pas simplement que la pénalité de mes péchés ont été exécutés sur la croix, mais que la force, la vie de mes péchés, leur domination qu'ils ont sur moi, ont été enlevés, parce qu'ils ont été amenés à la croix et crucifiés avec Christ. Et donc maintenant mon péché n'a plus aucune puissance sur moi quand je suis en Christ. Je suis maintenant, pour le dire ainsi, mort au péché. Parce que j'étais avec lui, mais aussi mes péchés y étaient aussi. Je n'ai plus besoin de les obéir, j'ai un nouveau maître. Et le verset semble mettre l'accent sur cette idée, parce que ça continue, regardez-le. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. C'est la merveilleuse doctrine de l'expiation substitutionnelle. Quelqu'un d'autre dans ma place. Le péché m'appartenait, mais il a été porté ailleurs par un autre. Ce n'est pas le péché négligé, hein. C'est pas que Dieu tourne sa face pour pas regarder les péchés. Non, ce n'est pas le péché négligé. C'est mon péché jugé et condamné, mais dans la personne de Jésus-Christ. Donc si je suis sauvé ce matin, c'est que mon péché a déjà été jugé. Vous savez, le jugement de Dieu va descendre sur chaque péché. Si on est hors de Christ, le jugement va descendre sur nous. Mais si nous nous trouvons en Christ, le jugement descend aussi féroce et aussi juste sur nos péchés, mais sur la personne de Jésus-Christ qui l'est porté sur la croix. C'est ça le merveille du salut. Mon péché, mais il les a portés loin. On a parlé de la substitution, mais de même que le pécheur et les péchés sont inséparables, ainsi la substitution et le substitut le sont aussi, parce que quelqu'un a dû porter ses péchés. Ils ne sont pas allés eux-mêmes. Quelqu'un a dû les prendre. Quelqu'un a dû subir ce jugement. Donc considérez finalement le substitut. Verset 24, regardez-le encore s'il vous plaît. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Alors c'est qui? Ça parle de qui? C'est qui a porté lui-même mes péchés dans son corps? Jean chapitre 1 verset 29 nous dit, le lendemain, il, et ça parle de Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, c'est lui le substitut. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si c'est les péchés d'un homme qui doit être porté loin, il faut que ça soit un homme qui les porte. Et ça doit être un homme qui n'a aucun péché propre à porter. Ça doit être un homme parfait, sans trace de la chute d'Adam, sans aucune souillure, quelqu'un qui est saint et pur. Vous savez, ici on trouve dans le verset, c'est le langage d'un prêtre qui porte l'offrande à l'autel pour l'offrir. Mais regardez ça, le prêtre est lui-même l'offrande, vous voyez ça? Il est lui-même à la fois le souverain sacrificateur qui porte les péchés et aussi l'agneau de Dieu qui les porte en lui-même. Il est le sacrifice et le sacrificateur. C'est lui le substitut qui a accepté le jugement de Dieu contre mes péchés en prenant mes péchés à la croix. Considérez, je veux simplement nous encourager à l'aimer ce matin. C'est ce que j'essaie de faire. Je sais que vous connaissez ces choses, la plupart de vous au moins, mais nos cœurs doivent être remplis d'amour pour lui, d'affection pour lui. Et si vous faites partie de sa famille, si vous êtes un de ses brebis, pensez à Jésus qui s'est tenu à votre place, là sur la croix. Considérez sa bonne volonté, sa volonté de le faire. Verset 24 nous dit qu'il a porté lui-même. C'est l'idée que ça n'a pas été exigé de lui. Il n'a pas été forcé, il l'a fait de lui-même. Jean 10, verset 17 et 18, Jésus parle et dit: le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et puis il dit ça: personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il l'a fait de lui-même. Il n'était pas obligé, il n'était pas forcé à le faire. Il l'a fait lui-même. Et de lui-même. Et considérez, juste un moment, sa suffisance. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Alors, tous nos péchés, pensez à tous vos péchés, et puis à tous les péchés de tous les autres. Et Jésus les a tous portés où? Dans son corps. Une seule fois. Parce que sa mort était suffisante. Vous savez, si vous avez Jésus, si vous avez la mort de Jésus à votre place, vous n'avez besoin d'aucune autre chose. C'est assez qu'il est mort, et qu'il est mort pour moi, en son corps. Et puis, pensez aussi à sa douleur, à sa souffrance. Il les a portés en son corps sur le bois. Ça vous fait penser de quoi? De la croix, de calvaire, bien sûr. De la souffrance qu'il a eue de la part des hommes, de la part des juifs, de la part des romains. Tout le monde lui moquait, le raillait. Même ses disciples ont tourné le dos pour s'enfuir. Il n'y avait personne autour de lui. Tout le monde l'avait abandonné. Mais ce n'était pas ça le pire. C'est qu'il a été abandonné même de son Père. Dieu, le Père, a tourné la face. Il a rompu cette communion entre les deux. Et la Bible nous dit que même le soleil a dû cacher sa face pendant ce temps. C'était noir tout autour de lui pendant ces 3 heures qu'il souffrait. Une souffrance inimaginable. Vous savez, si un péché est péché contre un être infini, c'est un péché infini, on a dit. Et donc, ça peut seulement être payé ou racheté par une rançon infinie. Et c'est ce que Jésus a donné quand il a donné sa vie. Un cantique que nous chantons des fois dit « Blessé pour moi, blessé pour moi. Oui, sur la croix, il fut blessé pour moi. Tous mes péchés devant Dieu ne sont plus tous effacés par le sang de Jésus. » Prions. Seigneur, nous avons considéré la mort de Jésus-Christ. Seigneur, si j'avais 1000 voix, je ne pourrais pas le raconter et l'expliquer d'une manière digne. Mais nous te remercions que ton esprit est présent parmi nous et nous te demandons qu'il nous éclaire, qu'il ranime notre amour, notre foi pour Jésus-Christ qui a tant souffert pour nous. Nous l'aimons. Amen.